Biodiversité samedi, le rendez-vous nature de Naz avec le syndicat mixte de la baie de Bournaz.
Un nouveau rendez-vous de la biodiversité samedi. Le printemps se profile. L'émission aujourd'hui est enregistrée en extérieur. Il fait assez beau et je me retrouve à suivre sur un joli sentier Guillaume Simon, technicien forestier territorial à l'ONF, un habitué de 9FM. Bonjour Guillaume.
Bonjour Emmanuel.
Alors, on est où là précisément?
Alors, on est sur la commune de la Barre de Mont, donc dans la dune grise quasiment, hein, donc pas très loin de l'océan et également pas très loin des premiers boisements.
C'est le thème du jour, c'est la restauration de la dune grise. Et c'est donc tout légitimement que le syndicat mixte de la baie de Bourneuf vous a choisi, Guillaume, pour traiter de ce sujet, pour nous expliquer un petit peu tout, car l'ONF gère, on le rappelle, hein, des centaines de kilomètres de dunes en France.
Alors oui, c'est vrai qu'on l'oublie, mais l'établissement ONF gère plus de 350 km de dunes sur le front de mer de la façade atlantique, essentiellement en Aquitaine, mais quand même soit pratiquement 70 km en Vendée, et puis une petite partie aussi quand on monte sur la Bretagne. Donc c'est vrai qu'on a de bonnes références, on va dire, en matière de gestion dunaire.
La gestion, c'est tout votre travail. Alors quand on parle de dunes, on a peut-être une image de dunes sableuses, hein, essentiellement, là c'est un peu autre chose. En tout cas, c'est un espace que vous connaissez parfaitement. Il se décline en plusieurs strates déjà.
Alors effectivement, la végétation des dunes, ça avait été l'objet d'une émission en radio, elle s'organise en fait en fonction de la distance par rapport à l'océan. C'est vraiment l'océan qui amène la contrainte et donc la salinité, le vent, les embruns et le transport de sable. Et c'est ça qui va conditionner la répartition des végétaux en fait en cortège et donc en bandes parallèles au trait de côte. Donc on a des bandes parallèles qui s'organisent en fonction de l'éloignement à l'océan.
Là, on est à combien de mètres, on va dire, de l'océan, là?
Là, on doit être à 80 mètres environ, on n'est pas très loin.
Et la dune, elle respire, elle bouge, alors peut-être pas cette partie-là, quoique, peut-être que si, justement, c'est un être vivant, presque.
Alors, on est déjà, ouais, dans un... Alors, ça bouge pas beaucoup, parce que heureusement, il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui, mais on est déjà dans un univers de dunes fixées. Donc, on est, vous voyez, on est déjà... On voit, il y a des endroits où on voit à peine l'horizon de l'océan. Donc, on est dans le revers de la dune. On n'est plus dans le secteur où la dune est considérée comme très mobile, souvent avec des plaquages de sable nus. Là, on est déjà dans le revers de dune, avec une végétation qui va vraiment fixer les sols et qu'on a sous les yeux. Là.
On a sous les yeux effectivement une dune toute verte, mais on va en parler dans quelques minutes. Alors, on l'a assez fragile cette dune par nature, hein, Guillaume, puisque l'érosion elle est à peu près inévitable. Le vent déjà, il s'attaque à cette dune, il la façonne aussi.
Alors le vent, oui, historiquement, c'est ce qui a motivé en fait la création des boisements, hein, qui sont complètement artificiels sur l'ensemble de la façade atlantique. Ça a été vraiment la lutte contre l'érosion éolienne. Le vent faisant en sorte que la dune était mobile et venait menacer des activités économiques ou des sols agricoles très fertiles en arrière dune. Ou alors carrément des hameaux ou des bourgs, des villages qui disparaissaient sous le sable. Donc il y a eu une volonté forte à partir de 1810 de fixer.
Tout ce qu'il y a autour de nous, on a pas mal de végétation, il y a pas mal d'arbres, d'espèces différentes. C'est l'homme qui a installé, qui a planté tous ces arbres?
Alors là, pour les arbres, oui, c'est quasiment l'homme qui a tout implanté. On sait qu'on a, à travers les archives, on sait qu'on a des endroits avec quelques vieux pins qui colonisaient les milieux, aussi quelques chênes verts, notamment à Noirmoutier. On sait qu'il était bien présent sur les dunes, notamment au bois de la Chaise. Mais c'était des boisements très erratiques, très ponctuels, avec une très faible densité. Et en matière de répartition, c'était infime par rapport à l'espace nu. Alors c'est un espace sur lequel aussi il y avait des usages, des pratiques. On y faisait pâturer ses animaux, etc. Donc le sable, il était amené à se déplacer du fait de cette absence de végétation et puis de ses usages.
Et quand je vous ai parlé des attaques du vent, à chaque coup de vent, vous venez ici vérifier un petit peu comment ça se passe?
Alors non, aujourd'hui la problématique elle a plutôt évolué, c'est-à-dire que le travail de fixation des dunes sur lequel on va revenir après, il est plutôt achevé, on va dire, il a été même assez loin. Donc on considère que voilà, la dune globalement elle ne bouge plus, elle ne menace plus les activités rétro-littorales. En revanche maintenant, c'est vrai que quand on a des tempêtes, bon, effectivement on vient toujours... faire un petit examen de la dune après les tempêtes, comme la semaine dernière. Mais c'est aussi pour regarder sous la focale de l'érosion marine. L'enjeu aujourd'hui, c'est la montée des océans. Et donc, c'est la tendance que l'océan peut avoir à venir grignoter le pied de dune ou le haut de plage et à prélever du sable. Donc, c'est aussi à travers cette focale-là qu'on va intervenir.
Donc là, on se balade, enfin, c'est un petit peu arrêté, mais on se balade sur un sentier, hein, il est assez long, là, il y a combien de kilomètres là devant nous ?
Alors ça, c'est le sentier littoral qui part du pont de Noirmoutier et qui va jusqu'à Saint-Jean-de-Mont, en gros. Donc, il y a à peu près 18 kilomètres de randonnée, là.
Et on va emprunter le sentier, parce que la dune en soi, l'autre grand attaquant, c'est l'homme, hein. C'est nous, c'est les hommes, les femmes qui pouvons piétiner, marcher. Alors là, on n'a pas beaucoup de possibilités, il y a plein de barrières, enfin de barrières, il y a plein de petits poteaux.
Ouais, voilà, c'est vrai qu'il y a eu un gros effort de fait ces dernières décennies pour canaliser en fait les usagers dans la dune, justement parce que c'est un habitat sensible. Et donc on a fait en sorte de choisir finalement par où les gens devaient passer. Donc ça reste des clôtures très transparentes, avec un peu symbolique, avec simplement un fil. Mais l'objet, c'est effectivement de faire en sorte que les gens n'aillent plus piétiner l'intérieur de ces parquets de dune.
Et est-ce que c'est respecté, ça ?
Alors, globalement, c'est très bien respecté. On a les problèmes qu'on peut rencontrer de non-respect, c'est lorsqu'on a des nouveaux dispositifs et qu'on les a mal réfléchis, souvent. On a été trop ambitieux. Et donc, dans ce cas-là, il y a des fils qui sont dégradés, coupés. Mais globalement, on a une bonne appropriation par la population locale de cette protection de la dune.
Évidemment, l'homme peut aussi intervenir très positivement, effectivement, par tous ses travaux pour protéger le cordon dunaire. Cela fait partie de vos missions à l'ONF. On en parle dans une deuxième partie d'émission après une pause. Biodiversité samedi avec Guillaume Simon de l'ONF. Là, on déambule sur un sentier à la barre de Mont. L'océan est à droite de nous, on l'entend, à la mer au loin. Dans quelle partie, voilà, d'ailleurs, de dune sommes-nous exactement là, Guillaume ?
Alors, bah, on est sur le secteur de la Barre de Mont, toujours dans la dune grise de la Barre de Mont.
La dune grise, bah justement, on va en parler, c'est un peu le sujet de l'émission sur sa restauration. Alors, avant de préciser, on rappelle les enjeux de protection de la dune, pourquoi c'est si important pour vous ?
Alors, c'est vrai que dans la succession de végétation dont on a parlé tout à l'heure, c'est en fait une succession d'habitats. Et la dune grise est identifiée depuis l'avènement de Natura 2000, en fait, comme un habitat prioritaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un habitat qui est sensible, qui est peu représenté à l'échelle de l'Europe, très très peu représenté, et puis globalement un peu menacé. Alors soit effectivement par le piétinement, ça a été très vrai dans les années 70-80, au moment d'un développement touristique qui était moins encadré, on va dire, où on allait à la plage, à travers la forêt, à la dune, un peu comme on voulait. Aujourd'hui, bon, il y a tout l'effort de canalisation qui est fait, mais il y a effectivement des menaces qui viennent quand même peser sur le milieu, notamment du fait du changement climatique et de l'impact de l'océan sur la dune et la plage. C'est-à-dire qu'on peut avoir des mécaniques d'érosion qui entraînent en fait un basculement des milieux vers l'arrière, donc un recouvrement par la dune mobile, par exemple, par du sable, de cette dune grise. Et puis à l'inverse, on a une seconde menace qui est bien identifiée, c'est l'avancée naturelle du boisement qui a été implanté artificiellement par l'homme.
Donc on va le revoir petit à petit, elle se réduit un peu. Alors juste avant de préciser un peu tous les travaux de restauration que vous avez entamés maintenant il y a quelques années, on l'a entendu, l'un des premiers axes c'est déjà on limite l'accès à la dune avec tous ces travaux de canalisation comme vous l'avez évoqué. Un autre axe c'est l'information et ça fait partie aussi de vos missions.
Oui, on a essayé notamment sur Pays de Mont avec la communauté de communes, on a fait un gros travail de rafraîchissement de la signalétique d'accès plage et d'aire de pique-nique, etc. il y a 3 ans à cette occasion-là on a amené effectivement au public pas mal de contenu sur les panneaux en matière de biodiversité, en matière d'espèces, soit des focales sur des espèces particulières, végétales, animales. Et puis on communique aussi à travers Biotopia, évidemment, qui est un outil dont c'est l'objectif même de communiquer.
Vous êtes un grand partenaire. Alors cette dune grise, on l'appelle dune grise, mais moi je vois une grande étendue verte.
Oui, c'est effectivement une question pertinente. Cette dune grise, il faut imaginer que c'est un tapis végétal qui est situé dans le revers de dune, donc dans un espace qui est un peu plus protégé des contraintes océaniques. Et en fait, à partir du printemps, nous, les statistiques météo ici, printemps-été, on a une pluie qui est considérablement en baisse, on a moins de pluie, et on a des milieux qui sèchent assez vite et qui atteignent des températures importante en fait au sol. Donc le couvert végétal il est très largement composé de mousse et de lichen. Et les mousses ont cette capacité de reviviscence, donc de cette capacité à sécher finalement, complètement, à devenir totalement sèche en été, et puis à redémarrer à la belle saison. Donc là, effectivement, on est en sortie d'hiver, c'est encore bien vert, mais il faut imaginer que toute cette couverture va se teinter de brun et un peu de gris cet été, c'est d'où son nom.
Et la douceur là, de ces dernières semaines, on a vécu presque un pré-printemps. Là, vous l'identifiez aussi quand vous venez ici ?
Alors, pas encore complètement, mais on voit quand même qu'il y a déjà des petites plantes qui fleurissent. C'est une des particularités aussi sur ce milieu, c'est que justement comme on a une saison sèche très marquée en été, il y a une grande partie des plantes qui vont faire leur cycle de vie maintenant, mars, avril, mai, et comme ça elles passent la mauvaise saison qui est pour eux l'été sous forme de graines en fait dans le sol.
Et alors on est évidemment dans un milieu où il y a pas mal effectivement de végétation, de plantes, de fleurs et éventuellement d'animaux donc.
Alors ouais aussi, c'est sûr que là, alors ça va faire l'objet d'études complémentaires, mais on sait que c'est un milieu très particulier au niveau de l'hébergement de la flore, avec des plantes à fleurs qu'on va retrouver uniquement sur ce milieu, c'est-à-dire dès qu'on passe de l'autre côté de la forêt, on va les perdre et on les retrouvera nulle part en traversant la France. Sur la faune, c'est également certain qu'il y a un grand nombre d'insectes, de coléoptères, d'orthoptères qui sont uniquement inféodé à ce milieu-là. Et ça fait partie des études qu'on va poursuivre en fait dans les années à venir, ces inventaires.
Donc là, on est vraiment entre les terres et mers, entre l'océan et le bois qui est juste derrière nous. Il y a quand même quelques arbres aussi sur cette dune grise. Et vous travaillez à la restaurer. C'est aussi l'objet de cette émission. Alors pourquoi la restaurer? Et puis comment vous avez travaillé depuis maintenant quasiment 3 ans hein, sur de premiers travaux? Réponse dans 3 minutes. Sur Nov FM dans la biodiversité, samedi, on le rappelle, une émission qui est proposée par le syndicat mixte de la baie de Bourgneuf qui aujourd'hui s'intéresse, et toute la saison d'ailleurs, aux actions pour défendre la biodiversité et aujourd'hui aux actions sur la dune. On est à la Barre de Mont avec Guillaume Simon de l'ONF qui est donc en charge de la gestion du cordon dunaire. Vous nous guidez donc dans cette dune grise. Alors là, on a passé, allez, exceptionnellement quelques cordons, quelques barrages pour arriver sur la dune boisée, c'est ça le nom exactement?
Oui, c'est ça. On arrive dans le milieu de dunes boisées. Alors avec une transition qui est quand même très brutale. C'est-à-dire que là, dans la genèse en fait de ce paysage, il y a eu une volonté assez forte des forestiers des années 90, là en l'occurrence, de réussir les boisements d'arrière dunes. Donc pour ça, ils ont implanté en fait nos prédécesseurs du cyprès en bande comme ça, parallèle au trait de côte également, en ligne. Le cyprès ayant cette capacité à dans son aire naturelle sur la côte pacifique américaine à pousser très près de l'océan, à très bien supporter les embruns, la salinité, la proximité de l'océan et également le vent. Et donc ce rideau de cyprès en plusieurs bandes, là on voit 4 bandes qui ont été plantées, ont été mises en place pour faire un écran et ainsi mieux réussir les boisements de pins maritimes qui étaient derrière. Parce qu'en fait, il y avait des successions d'essais. Au fur et à mesure qu'on s'est rapproché de l'océan, en fait, les forestiers avaient plus de difficultés à réussir les boisements. Et ils étaient dans une logique, voilà, de reboiseurs un peu jusqu'au boutiste, dans un contexte qui était différent de celui d'aujourd'hui, à une époque où aussi on connaissait même pas la valeur environnementale vraiment de ces milieux. Et donc une logique vraiment forestière. Ce cyprès, il a cette capacité à faire notamment des branches fortes, assez puissantes, dès le sol quasiment, hein, donc à faire un écran, un bouclier contre le vent.
Vos prédécesseurs ont fait un grand effort de reboisement et vous, eh bien, vous travaillez au déboisement, ce qui est un peu paradoxal. Alors, j'exagère un peu le trait, mais en même temps, je vois devant nous, on a une dizaine de troncs d'arbres qui ont été coupés au haras.
Alors ouais, c'est complètement paradoxal, effectivement, d'autant plus qu'on a longtemps laissé penser aux gens que c'est la forêt qui protégeait aussi contre l'érosion. Alors c'est vrai contre l'érosion éolienne, mais les gens font les amalgames aujourd'hui en disant bah oui, mais c'est la forêt qui nous protège contre l'érosion marine. Là, c'est beaucoup moins vrai. C'est pas la végétation arborescente qui protège le mieux. Mais oui, c'est paradoxal, d'autant plus que on a dans nos équipes actuellement certains ouvriers forestiers qui ont participé en partie au début de leur carrière à cette opération de boisement. Donc c'est délicat aussi en interne d'aller contrecarrer une action qu'ils ont mise en œuvre. Mais voilà, c'est une autre logique. En fait, on a fait des études qui nous permettent de nous rendre compte qu'on a des pertes en fait de surface de dunes grises. On a une étudiante qui a travaillé à une comparaison entre 2006 et 2013. On a perdu sur la forêt des Pays de Mont 30 hectares de dunes grises. Sur un total de 260 environ.
Ce qui est énorme, donc.
Ce qui est énorme et ce qui est imperceptible en plus. C'est-à-dire que c'est vraiment l'avancée tout en douceur des boisements avec leur croissance qui va refermer les milieux. Et donc là, on a fait une opération effectivement un petit peu brutale pour certaines personnes probablement de reconquête du milieu ouvert.
Donc on a un grand, grand carré, là, effectivement, on n'a plus vraiment d'arbres, en tout cas sur ce carré. Vous avez choisi quand même certains bois à couper, pas tous, hein, évidemment.
Alors ouais, on n'est pas allé dans une opération radicale de coupe rase sur un grand rectangle de 2 hectares. On a travaillé environ 2 hectares, mais en essayant de prendre soin aussi du paysage. Alors c'est très subjectif, mais il n'était pas question de déboiser tout d'un coup. Et puis par ailleurs, les micro-boisements qu'on a laissés, on sait qu'ils sont utiles aussi en matière de biodiversité. Donc il ne faut pas aller faire une machine arrière brutale et violente.
Et attention aussi évidemment au milieu, on y va progressivement pour le milieu.
On y va progressivement vers le milieu, vers ce milieu dunaire, d'autant plus qu'on, c'est un peu l'objet de cette expérience, c'est de savoir combien de temps ça va prendre et est-ce que les modalités qu'on a mises en œuvre permettent de reproduire l'exercice ailleurs sur le territoire. Donc là, il faut qu'on se donne le temps d'avoir du recul. On a fait des inventaires en fait avant les travaux, des inventaires botaniques avec un certain nombre de placettes. On a fait pendant les travaux du déboisement avec l'export des branchages aussi, parce que c'est finalement la matière organique qui vient nourrir les sols et puis permettre le développement de la végétation. Donc ça, on l'a exporté entre guillemets pour rajeunir le sol. Il y a même des secteurs où on a décapé le sol pour voir à quelle vitesse aussi la reconquête de la dune grise se fait, si elle se fait, et avec quel cortège végétaux.
On est en phase de test là. Vous avez démarré en 2021 le déboisement, on est en 2024, ce n'est pas fini.
Ah non, c'est pas fini, non, parce que d'autant plus qu'alors bon, c'est un boisement qui était tout jeune, hein, une trentaine d'années, donc c'était aussi un des critères de choix. Mais on a un stock de graines qui ont été implantées quand même pendant 30 ans dans le sol et qui vont pouvoir se développer aussi maintenant que le sol est à nu. Donc on a des lycéens là qui sont venus faire des opérations d'arrachage de semis. Parce que l'enjeu dans les prochaines années, ça va être de lutter contre ce stock de graines qui va se développer et qui va vouloir nous remettre absolument de la forêt à cet endroit.
Gestion un peu compliquée, mais on peut préciser aussi, vous avez opté pour un partenariat de choix avec un petit animal qu'on peut voir, alors qui s'est un peu raréfié, mais peut-être qui revient, c'est le lapin.
Oui, le lapin, c'est vrai que c'est une espèce qui est très importante pour la dune, notamment pour la dune grise, parce que c'est une espèce qui va tout simplement consommer du végétal et maintenir les pelouses rases et donc permettre l'expression d'une flore qui est vraiment liée à ces milieux. On l'observe par endroits, dans les secteurs où il y a plus de pression de lapin, on a une tendance à non pas un enfrichement, une sorte d'enfrichement plus rapide de la dune et une perte d'espèces aussi qui est liée au développement d'un voile de graminée par exemple ou d'autres végétations. Donc le lapin, il est fondamental pour la dune, et comme c'est une espèce aussi qui est malmenée depuis plusieurs décennies, notamment par des maladies, on a essayé à travers aussi ce chantier de lui mettre à disposition un espace de prospection et de vie qui lui soit favorable. Donc on a aménagé ce qu'on appelle des garennes artificielles tout simplement, notamment en utilisant les branches des cyprès. On a surcreusé un petit peu le sol, on en a fait 13, et puis on a disposé ces branchages recouvert de sable à la fin pour lui permettre d'avoir un habitat un peu propice, on l'espère. Donc on va faire aussi ce suivi sur la durée.
Alors en quelques mots maintenant, la suite c'est quoi dans cette restauration?
Alors la suite c'est poursuivre donc dans un premier temps, les premières années, l'arrachage des ligneux qui vont vouloir se réimplanter parce qu'ils sont, présents dans l'horizon superficiel du sol. Ça va être de suivre justement l'évolution de la flore. Donc on va refaire des inventaires très probablement dans 3 ans avec des pas de temps de 3 à 5 ans pour voir comment ça évolue, si ça évolue positivement dans le sens qu'on avait imaginé ou pas et à quel rythme. Et puis éventuellement poursuivre le travail d'ouverture de certains rideaux de cyprès du secteur parce qu'on n'a pas pu tout travailler d'un coup.
Merci beaucoup Guillaume Simon on va retrouver je suis sûr dans quelques mois sur un autre thème sur 9FM de l'ONF. Vous connaissez ma dernière question mais vous n'avez peut-être pas répondu à cette question sur une dernière émission. La biodiversité, la nature, il faut la protéger parce qu'elle est magique. C'est la magie qui vous motive chaque matin.
Alors, la biodiversité, c'est vrai que c'est un volet de plus en plus examiné dans le cadre de notre métier, où à la base, on est plutôt tourné vers le bois, hein, il faut pas se leurrer. De plus en plus, la biodiversité prend une part très importante, et sur les milieux littoraux, c'est vrai qu'elle est fondamentale, et puis elle est importante à plusieurs titres. On sait que c'est aussi, quelque part, c'est la vie, donc c'est un peu l'immunité de la nature, la biodiversité, c'est ce qui lui permet d'être réactive, quoi.
Et c'est important l'immunité. Merci beaucoup Guillaume. On vous retrouve en podcast lundi matin et on se retrouve aussi dans un mois avec un nouveau sujet. Je crois qu'on va partir vers une terre un peu saline.
Je revois le fond, mes souvenirs sont là, je redoute le monde.